Et si tu n'étais plus jamais débordé par une seule émotion, ni celle de tes enfants, ni les tiennes, comment ce serait pour toi? Je te donne rendez-vous le samedi 16 septembre à 10h30 pour une masterclass offerte sur ce sujet-là. Le lien d'inscription est dans la bio et en légende de cet épisode. Je te souhaite une bonne écoute. À très vite. Bonjour! Bienvenue sur Les Petits Plus Zen, le podcast pour faciliter et savourer sa vie en famille. Je m'appelle Séverine, je suis facilitatrice en parentalité après avoir été 22 ans professeure des écoles en maternelle REP+. Chaque semaine, je te propose ici des pistes et des thèmes approfondis sur la petite enfance, l'éducation et la communication pour que tu retrouves le plaisir des relations familiales sereines et épanouies. Une de mes missions est de t'aider à mieux comprendre et apaiser les émotions de chacun pour installer un équilibre entre tes besoins personnels et ceux de ta famille et enfin retrouver du temps pour toi. Je te partagerai aussi mon expérience en classe de maternelle, des découvertes apprises en formation et des outils inédits et actionnables facilement que j'ai créés au fil du temps à l'école et à la maison. Pour ne manquer aucun épisode, abonne-toi s'il te plaît sur ton application de podcast préférée et participe généreusement à la diffusion de mon travail en laissant un avis et une note de 5 étoiles. Pour plus de contenu, d'inspiration et de motivation, retrouve-moi aussi sur Instagram, Facebook et Clubhouse sous le nom Les Petits Plus Zen. Sur ce, je te souhaite une belle écoute. Bonjour, vous écoutez l'épisode 70, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler du quotidien juste après cette rentrée. Vous avez sans doute vécu pas mal de décisions cette semaine, il y a vraiment beaucoup de choix à faire, vraiment beaucoup de papiers à remplir, d'horaires à changer dans l'aménagement de la maison. Et je voulais aujourd'hui vous faire un point sur ce quotidien de rentrée pour améliorer à la fois l'organisation dans la famille, dans la maison, et puis pour vous alléger surtout le quotidien pour les 4 mois à venir pour finir l'année. Donc dans cet épisode, tu vas retrouver les 9 problématiques que les familles rencontrent en ce moment, que j'ai été interviewée dans le parc à la fête des assos de ma ville et de la ville voisine ce week-end. Tu vas retrouver aussi 10 astuces pour alléger ton quotidien. Et puis à la fin, je te parlerai de ma rentrée pour moi et puis pour mon entreprise. Comme ça, tu vas pouvoir rentrer aussi dans les coulisses. Alors, on va commencer tout de suite. Ce week-end, donc, j'étais à la fête des associations de ma ville et puis de la ville voisine. Et je suis allée à la rencontre des familles et je leur ai demandé quel était leur plus grand défi en ce moment sur cette semaine de rentrée. Comment faire pour améliorer leur vie parentale, leur vie familiale? Et donc, j'ai relevé et noté les 9 réponses qui sont venues le plus souvent. J'ai à peu près rencontré une trentaine de familles. Donc, la réponse qui est venue en premier, c'est les difficultés de voir notre enfant rentrer à l'école. Donc, la séparation, la première journée de rentrée, toutes les émotions qui ont été révélées au niveau de cette séparation. Beaucoup de questions dans le couple, beaucoup de questions vis-à-vis de l'enfant. Comment réagir? Est-ce que nous, on doit montrer une émotion aussi? Est-ce qu'on doit le laisser pleurer? Donc, pas mal de questions. On a pu évoquer ça dans le parc. Deuxième doute pour eux, comment agir dans la rivalité avec la fratrie. Donc quand j'abordais des familles qui avaient plusieurs enfants, c'est vraiment un point sur lequel ils se posaient des questions à chaque rentrée. Est-ce qu'on doit mettre une nouvelle organisation en place? Comment faire? Est-ce qu'on doit être médiateur ou arbitre? Donc c'est une question vraiment importante pour les familles que j'ai rencontrées parce que suivant l'âge des enfants, le petit, le grand, parfois ils ne sont pas du même sexe, parfois ils ne sont pas du tout dans la même chambre. Mais au quotidien, c'est assez lourd d'organiser la régulation des émotions de chacun dans la fratrie. Troisième point qui est revenu dans ce petit sondage bucolique, c'est l'organisation du périscolaire. On a un emploi du temps très casse-tête pour que chaque enfant ait son activité sportive, que chaque parent puisse avoir aussi un petit peu de laps de temps, soit pour faire une activité culturelle ou une activité artistique. Donc, ils sentaient là, avec tous les dépliants dans les mains, si vous allez au fait des assos, vous voyez qu'il y a toujours beaucoup de dépliants à la fin de la journée qu'on ramène à la maison. Donc, ils étaient un peu dépassés par les problématiques de logistique et de qui va emmener le petit dernier au foot le mardi alors que toi, tu sors de réunion à telle heure, etc. Donc, on a évoqué ce sujet-là aussi. Quatrième point qu'on a évoqué, comment retrouver du temps pour soi dans ce tourbillon de rentrée? C'est un sujet que j'aborde beaucoup, hein, notamment on l'a utilisé dans l'épisode 62, si vous avez envie de le réécouter ou de l'écouter. Donc les mamans qui me répondaient, les papas qui me répondaient en disant « on n'a absolument aucun temps pour nous, tout est consacré à les affaires des enfants, les inscriptions, l'organisation, le planning, les réunions, les rentrées, et le temps pour soi, là, il est quasiment inexistant ». Ensuite, ils m'ont parlé beaucoup des crises émotionnelles suite au retour des vacances, que pendant les vacances, ça s'était plutôt bien passé et que là, on sentait vraiment de la friction, des tensions revenir après les vacances. Donc, comment faire pour nommer, pour arrondir peut-être les angles autour des émotions, à la fois des parents et des enfants. Ça les faisait beaucoup sourire hein, quand je disais « est-ce que les émotions de vos enfants impactent aussi vos émotions ?» Donc, je sentais vraiment une complicité dans cette question parce qu'on est tous hein, logés à la même enseigne sur cette contamination émotionnelle qui fera d'ailleurs, je vous le dis, l'occasion de l'épisode de la semaine prochaine, comme ça vous savez qu'on va traiter spécifiquement de cette contagion émotionnelle la semaine prochaine. Ensuite, ils m'ont parlé aussi des difficultés de communiquer dans le couple quand il y a beaucoup de logistique à mettre en place. Parfois, on s'agace un peu plus vite, parfois on se crie dessus, parfois on veut convaincre l'autre, avoir raison, ou tout laisser tomber, claquer la porte et dire « bah t'as qu'à t'en occuper ». Donc j'ai eu plusieurs témoignages en ce sens ce week-end. Voilà, je pense qu'on peut tous se relier à ça, hein, que quand il y a vraiment beaucoup de choses à décider, eh ben, l'ambiance s'en ressent à la maison au niveau des adultes. Septième point, le nombre de choix à faire conduit à une fatigue physique, mais aussi une fatigue organisationnelle, une fatigue émotionnelle. Et là, je voyais les traits tirés hein, sur certains parents qui disaient on est à peine le 4 septembre et c'est déjà difficile de se dire « Oh là là, il va falloir encore gérer tout ce mois de septembre qui n'est pas fini du tout ». Tout n'est pas encore réglé, il y a beaucoup de choix encore à faire, les inscriptions cantines, les inscriptions certificat médical et tout ça. Donc on sentait déjà la fatigue alors qu'on vient juste de rentrer de vacances et que les bénéfices des vacances pour certains sont loin, loin, loin derrière nous. Peut-être que c'est le cas aussi pour toi. J'ai aussi des questions et des retours sur l'arrivée du deuxième enfant. Donc des mamans qui attendaient leur deuxième enfant et qui s'inquiétaient de l'équilibre à mettre à la maison sur le temps passé pour chacun. Donc elles se projetaient un petit peu dans l'organisation qui allait venir. Et c'était assez délicat de voir que la place du premier, la place du deuxième, sa place à elle allait être mise en question. Et le dernier point avec lequel j'ai discuté pour les familles, c'était la place de chacun dans la recomposition familiale. Deux mamans que j'ai abordées, donc une première maman qui élevait ses filles seules et qui m'a dit que c'était très compliqué de faire la place à une nouvelle personne, à un nouveau partenaire. Et puis une autre maman qui m'a dit « je suis en train de faire une recomposition familiale et lui, il a du mal à trouver la juste autorité avec mes enfants puisque ce ne sont pas ses enfants qui viennent d'arriver ». Donc on a parlé ensemble du dialogue dans la famille, que chacun trouve son identité dans la famille recomposée, qui est un sujet délicat en effet et qui est vécu par de plus en plus de familles finalement, puisqu'il y a de moins en moins d'enfants qui vivent seulement avec les deux parents et qu'il y a beaucoup de beaux-pères qui arrivent dans l'équation, de belles-mères qui arrivent dans l'équation et qu'à un moment donné, on va peut-être être confronté à cette question de la communication par rapport à un bel enfant, une belle fille, un beau fils, une belle mère, un beau père, soit pour vous-même, soit pour votre sœur, votre frère. Comment améliorer la relation quand elle vient de nulle part, quand elle est entre guillemets imposée par les adultes, puisque les enfants ne sont pas au courant de tout ce qui se passe au niveau des coulisses amoureuses, mais plutôt au niveau du quotidien et du vécu en logistique. Donc parmi toutes ces familles-là, on a pu échanger hein, sur certains outils que vous connaissez déjà dans le podcast. Et puis on a parlé aussi d'astuces en tout genre qu'elles ont réussi, elles, à mettre en place. Les papas aussi se sont beaucoup investis. J'ai fini la discussion avec un papa qui avait 5 enfants et qui a dit que vraiment le premier enfant, il avait été dans un doute absolu à chaque décision. Et que pour le 5e enfant, il avait une vision beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine en se disant « de toute façon, il y aura des choses qu'on arrivera à faire, il y a d'autres choses qu'on n'arrivera pas à faire ». Donc si c'est votre premier enfant et que vous m'écoutez, c'est vrai qu'on relativise très souvent à partir du deuxième, du troisième. Et là, ce papa, il était vraiment très, très serein au bout du 5e enfant. On a passé un bon moment à discuter de ça hier. Donc, on va passer maintenant aux petites astuces que j'ai à la fois collectées auprès de ces parents-là et que j'ai partagées aussi dans la Zen Letter. Donc, si vous êtes abonné à la Zen Letter, hein, c'est gratuit, vous pouvez trouver les liens sur les réseaux sociaux. On a des possibilités, des pistes pour alléger notre quotidien. Ce ne sera pas magique, hein, bien entendu, mais je vais vous les repartager ici en fonction de ce que j'ai entendu aussi avec les papas et les mamans du parc ce week-end. Donc la première astuce, c'est de mettre en place une routine pour chaque personne de la maison. Savoir à quel moment ils vont prendre la douche ou le bain, à quel moment ils vont déjeuner, manger, est-ce que c'est avant les devoirs, après les devoirs, dans quel ordre on fait les activités, pour que ce soit quelque chose de régulier et qu'on ne soit pas en train de s'opposer à chaque fois de qui fait quoi, qui est où, etc. Si le lundi, il commence par faire ses devoirs et après il va au sport, si le mardi, il commence par regarder la télé et ensuite goûter, ça va être un risque supplémentaire de conflit. Alors que si vous décidez ensemble avec votre enfant de savoir dans quel ordre il veut faire les choses, eh bien, ensemble, il y aura moins de points de friction, moins de points de communication, puisque vous l'aurez décidé et que peut-être en rentrant de l'école, il va choisir de prendre sa douche maintenant pour être tranquille, pour être propre. Ensuite, passer un petit temps à relire ses leçons ou à colorier ou faire un puzzle. Peut-être après un petit temps d'écran si vous avez ce fonctionnement-là à la maison. Puis peut-être un temps avec ses frères et sœurs ou un temps avec vous, un peu de sport à la maison. Donc décidez ce qui est vraiment bon pour vous, pour que cette routine elle fasse sens pour tout le monde et que ce soit acté. Bien sûr, il y aura des exceptions, hein, les jours où vous aurez de la visite, les jours où il y aura un anniversaire, mais que ce soit une routine qui allège le quotidien, à la fois pour le matin et à la fois pour le soir. Il y a des enfants qui préfèrent petit déjeuner avant de s'habiller, etc. À vous de composer ce qui vous va bien. Deuxième astuce, trouvez un moment pour que chacun ait un petit temps de qualité en solo. Pour les enfants, ça peut être un temps de qualité avec leurs jouets, ça peut être un temps de qualité avec le grand-parent qui adore l'emmener à la piscine. Quel petit temps de qualité vous avez à chaque fois dans la semaine, peut-être dans la journée si vous arrivez à le faire. Ça peut être juste aller prendre un thé avec une copine, ça peut être aller vous promener après l'école dans le parc. Mais quel petit temps de qualité vous allez mettre par jour pour justement alléger la sensation de poids, la sensation de lourdeur dans votre semaine, d'être vraiment tout le temps en train d'agir au lieu de pouvoir sentir aussi un petit peu de bonheur, un petit peu de flamme agréable, etc. Donc comment insérer dans votre journée un petit temps de qualité avec vous-même pour que chacun y trouve son compte. Ensuite, je vous ai partagé, et ils m'ont partagé aussi, leur grand besoin d'aller à l'extérieur avec les enfants, d'aller dans les jardins, d'aller en montagne, d'aller en forêt, d'aller près de la mer, d'évacuer, de décharger, d'être dans la dépense physique, dans la dépense physiologique, qui apaisait au retour vraiment les tensions, que quand les journées pluvieuses étaient beaucoup plus difficiles à vivre. Il y a des mamans qui me disaient, moi, dès que je vois la pluie commencer, j'ai cette petite réaction de me dire, oula, la journée va être plus compliquée. Donc, si toi aussi, tu te dis que quand il pleut, c'est plus difficile, eh bien, je nous invite tous à mettre les bottes, prendre le parapluie et sortir quand même. Vous me voyez souvent en story avec Siana, sous la pluie, parce que, aller dans la nature, qu'il fasse beau, qu'il fasse gris, qu'il neige, qu'il pleuve, de toute façon, ça nous permet de recharger un petit peu et l'air et le mouvement et de passer à autre chose sur les tensions et l'ambiance un peu morose qui pourrait être quand on est plus de 2 heures enfermé dans la maison ou dans l'appartement. On a peut-être même des souvenirs du confinement. En ce sens-là, je vous laisse disposer de ces souvenirs plus ou moins agréables. Petite astuce supplémentaire, alléger un peu notre planning du week-end, qui est souvent très chargé. On veut en profiter pour tout caser, des fois le ménage et les courses et les amis et la famille et les travaux et donc à force d'accumuler des tâches à faire sur le week-end, le moment où on pourrait se reposer et recharger les batteries est remplacé par du à faire, par du productif, par du efficace, et on pourrait, et ça m'est déjà arrivé, je pense que ça vous est déjà arrivé aussi, de sortir du week-end encore plus fatigué que vous n'y êtes rentré. Donc comment faire pour alléger nos week-ends? Comment faire pour réduire un petit peu? Est-ce qu'on doit refuser une invitation à un barbecue? Est-ce qu'on doit refuser une sortie au spectacle pour se dire non, j'ai besoin de me poser 3 heures ce week-end et de ne pas courir après le temps, après les horaires, pour justement voir où j'en suis, de quoi j'ai besoin? Parce que quand on continue d'agir, on ne sait plus vraiment ce dont on a besoin, on fait. Mais ça n'a plus autant de sens que quand on prend le temps de prioriser, de voir ce qui est vraiment important pour nous ou urgent pour nous. On va rester dans cette notion-là pour l'astuce 5, de définir ensemble, en famille, un planning qui soit régulier, qui soit organisé pour que chacun puisse visuellement savoir ce qui est libre et ce qui n'est pas libre. Donc, par exemple, on en a parlé pas mal avec les clientes des Motizen, de mettre un planning dans la cuisine en disant le lundi, papa sort tard. Donc le lundi, c'est maman qui s'occupe des enfants, du repas, des couchers et puis éventuellement d'étendre le linge, par exemple. Et En contrepartie, bah, le jeudi, maman, elle peut sortir avec ses amis ou aller au cinéma ou aller au yoga ou aller au squash. Et le jeudi soir, ce sera papa qui s'occupera des repas, des couchers, du lave-vaisselle ou d'arroser les plantes, etc. De faire un petit planning pour que chacun ait des moments de liberté par rapport aux responsabilités, des moments de liberté par rapport aux tâches ménagères, par rapport aux soins des enfants aussi, rééquilibrer peut-être la charge mentale par rapport aux soins des enfants, qui s'occupent du linge, qui s'occupent des inscriptions, qui s'occupent des factures, etc. Voir avec l'organisation qui vous convient, à quel moment de la semaine on fait les courses, à quel moment de la semaine on s'avance sur les repas, peut-être si vous avez envie de faire du batch cooking pour éviter d'être tous les soirs en train de préparer le repas, de vous asseoir tous ensemble et de voir qui peut aider, qui peut contribuer pour que chacun y trouve son compte et que chacun puisse avoir une fin d'année plutôt zen, plutôt apaisée, sans que ce soit la même personne qui fasse tout. Et je vous le donne en mille, c'est très souvent la maman qui se colle au maximum de tâches. Les enfants tout petits peuvent participer à la vie de la maison, peuvent descendre le panier de linge sale, peuvent ramasser tout ce qui traîne dans le salon et le ranger à la bonne place. On peut les aider à contribuer. C'est des ateliers de vie pratique. Ça aussi, vous voyez beaucoup Siana en story le faire pour que l'enfant donne du sens à ses gestes, donne du sens aussi à l'action de cause-conséquence et que tout le monde en bénéficie au niveau légèreté d'esprit et baisse de la charge mentale. Dans cette même idée, astuce 6, voyez si vous pouvez limiter les activités en périscolaire pour que les enfants ne soient pas submergés par des encadrants différents, par des encadrants au niveau sportif, culturel. Il y a des enfants qui ont un atelier de musique, un atelier sportif, un atelier dessin, un atelier centre de loisirs le mercredi, plus la piscine le samedi. Ça devient très chargé parce que d'une activité à l'autre, on a peu le temps de se recentrer, voir dans quel état on est, nos ressentis, nos envies, nos besoins. C'est toujours des cases à cocher. C'est en plus pas mal d'organisations au niveau des transports, au niveau des horaires, peut-être aussi au niveau des tarifs. Ça finit par chiffrer beaucoup quand les enfants ont 4, 5 activités périscolaires. Déjà vu des familles avec des enfants qui avaient un emploi du temps presque plus chargé que le parent au niveau régularité des activités. Voyez si ça vous convient comme c'est maintenant, si en enlevant une activité par semaine et par enfant, ça vous soulagerait sur les allers-retours en voiture. Et on a beaucoup hein, de mamans taxi du mercredi qui font des allers-retours entre la grande du collège à emmener, la petite, et l'escrime, et la GRS, et le théâtre, et le conservatoire. Est-ce que ça vous va comme ça? Est-ce que vous pouvez déléguer peut-être à une autre maman que chacune fasse soit l'aller, soit le retour? Voir comment alléger le périscolaire. L'école est incompressible, les horaires d'école sont incompressibles, sauf si vous êtes en instruction en famille. Mais c'est vrai qu'il y a déjà pas mal d'horaires à tenir dans la journée avec l'école, avec le centre de loisirs, peut-être avec la garderie du mercredi. Voyez si vous avez envie de vous rajouter ces contraintes horaires avec le sport, avec la musique et tout ça. Septième astuce, favoriser l'autonomie de l'enfant à la maison. Donc l'autonomie de l'enfant à la maison, c'est réorganiser un petit peu sa chambre pour qu'il puisse seul ranger, seul choisir ses vêtements, seul organiser peut-être son ménage à minima, peut-être quand sa poubelle est remplie, de savoir la descendre tout seul, de lui proposer de plier son linge, de ranger son linge de la manière qui lui paraît la plus accessible possible, peut-être en mettre moins dans chaque tiroir, ne mettre que 6 pantalons par tiroir pour que tout ne soit pas en désordre. Voyez un peu comment l'enfant peut être plus autonome, attraper seul sa brosse à dents, attraper seul le gel douche quand il est dans la douche, qu'il s'habitue à prendre en main des actions sans être dépendant de papa, sans être dépendant de maman. Et puis à la fois, il va se sentir mieux parce qu'il va se sentir grandir en puissance personnelle. Hein, on est en train de nourrir sa rayure jaune d'identité et sa rayure verte d'autonomie. Et aussi pour nous alléger la tâche, comme ça ils ne sont pas obligés de nous attendre, ils sont capables de faire plein de choses tout seuls dans la maison sans qu'on soit obligé de leur dire bah, attends, je vais venir t'aider, attends, c'est moi qui vais descendre le jeu et tout ça. Parfois, la configuration de la chambre est faite de façon à ce que l'enfant est bloqué et risque de grimper sur un meuble pour attraper des affaires ou risque de provoquer une chute d'objets. Donc, vous voyez comment réorganiser la maison pour qu'il puisse, lui, s'occupait presque seul de ses chaussures, de ses habits, de son caouet, de son parapluie, de son sac d'école le soir, de vider sa bouteille d'eau, de remplir sa bouteille d'eau. Comment lui donner envie de s'occuper lui-même des tâches qui le concernent spécifiquement, sans que ce soit une fois de plus aux parents de s'occuper de tout pour tous les enfants. Suivant l'âge de votre enfant, hein, évidemment, si votre enfant a encore 2 ans, il y a certaines choses qu'il ne va pas pouvoir faire. Mais à partir de 5-6 ans, l'enfant est capable de faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, et dans sa chambre et dans la maison. Petite astuce numéro 8, dialoguer plus souvent en famille. Qu'est-ce que tu as vécu aujourd'hui? Comment tu te sens? Quel a été le meilleur moment de ta journée? Est-ce qu'il y a eu un moment de journée un petit peu difficile? Voilà, prenons l'habitude de demander à nos enfants comment ils se sentent. Comment nous aussi, on a vécu notre journée pour qu'ils se rendent compte qu'on a aussi peut-être des obstacles, des difficultés, des contraintes et que c'est important de montrer qu'on n'est pas non plus des super-héros sans s'épancher sur nos enfants, mais de vraiment partager en disant « moi j'ai appris quelque chose de nouveau en réunion, ça m'a paru très intéressant, j'ai envie de m'intéresser à ce sujet, de lire un livre dessus ou d'écouter une formation », de partager au quotidien ce qui nous remue, ce qui nous émeut, ce qui se passe dans notre cheminée des émotions, en flamme agréable, en flamme désagréable, pour que eux aussi ils prennent l'habitude de nommer leurs émotions, d'expliquer un petit peu peut-être les actions suite à ces émotions ou les déclencheurs de ces émotions. Je vous invite autour de tous ces sujets-là à réécouter les épisodes autour de la cheminée des émotions qui sont notamment le 9 et le 10 et puis un petit peu dans le 55 aussi. Astuce numéro 9, augmenter le taux de flamme agréable dans nos cheminées des émotions. Les flammes agréables, c'est donc la gratitude, la satisfaction, la paix, la sérénité, la fierté. Ces flammes-là, on les a à petite dose dans la journée et puis parfois, on est plus parasité par tout ce qui s'est mal passé. On se rappelle plus de ce qui nous a fait peur, de ce qui nous a inquiété, de ce qui nous a frustré, de ce qui nous a vraiment mis en colère parce qu'on n'y arrivait pas. Donc de faire des petits points régulièrement, peut-être le soir, en faire un rituel. Vous connaissez sans doute cette astuce du bocal de gratitude ou des 3 kiffs par jour qui ont été vraiment popularisés il y a une dizaine d'années. Au moment du dialogue par exemple, au moment du repas en famille, de chacun dire quelque chose qui nous a vraiment beaucoup plu aujourd'hui, de réactiver cette flamme de gratitude afin de voir que dans notre journée, il y a eu des moments difficiles, ça c'est sûr et certain. Tout le monde parmi vous et parmi notre famille, nos amis, ont eu des moments difficiles dans la journée. Et puis on a eu aussi des moments faciles, des moments agréables, des moments de beauté, des moments de découverte, des moments de magie peut-être, de spontanéité, une rencontre, une synchronicité qui nous a émus. Et donc de se rappeler de ça pour compenser un peu les flammes qui sont moins agréables dans notre cheminée des émotions. Et la dernière astuce pour vivre vraiment un quotidien plus allégé, c'est de s'entourer de personnes qui nous font du bien. Donc ça peut être votre famille bien sûr, ça peut être des amis, ça peut être des lectures, ça peut être des podcasts, ça peut être des gens que vous suivez sur les réseaux sociaux, des vidéos qui vous apaisent, des vidéos peut-être qui vous stimulent, qui vous donnent envie d'apprendre sur ce sujet-là, des vidéos qui vous donnent l'impression que vous êtes sur le chemin qui vous convient à vous, de s'entourer de personnes qui vont dans le sens que vous voulez pour vos objectifs, pour finir l'année et puis peut-être même pour préparer l'année. Quel est votre objectif principal en ce moment? Quelles sont les personnes qui ont atteint cet objectif et qui pourraient être un relais virtuel ou un relais réel, une sorte de mentor qui vous emmènerait vers le chemin que vous voulez? Donc si vous avez envie d'un rééquilibrage alimentaire, peut-être vous allez suivre des comptes qui parlent de ça. Si vous avez envie de réorganiser votre maison, vous allez peut-être suivre des comptes de Home Organizer ou de Fly Lady ou des comptes inspirants. Si vous avez envie d'axer sur la parentalité bienveillante, vous allez peut-être réacheter un livre ou aller à la bibliothèque pour suivre une formation. Toutes ces options pour vous tirer en fait vers ce qui vous émeut, ce qui vous motive pour vous, votre rayure jaune du coup, votre rayure d'accomplissement, votre rayure de réalisation, vers quelle personne, vers quel livre, vers quel support vous allez vous tourner pour vos propres projets. Parce qu'une fois de plus, ça c'est une flamme agréable dans nos cheminées des émotions, de se dire quelle est ma prochaine ambition, quel est mon prochain petit pas pour aller vers ce que je rêve vraiment dans ma vie. Ça peut être votre vie personnelle, ça peut être votre vie professionnelle si vous avez une envie de reconversion, votre vie familiale bien sûr, votre vie émotionnelle. Quel est le prochain chapitre que vous avez envie d'ouvrir et de trouver 1, 2 ou 3 personnes, soit qui en sont au même stade que vous et qui veulent aussi avancer, peut-être un binôme de responsabilité, peut-être quelqu'un qui a envie, comme vous, d'aller à cette étape-là, ou alors une mentor, une professionnelle qui va vous emmener plus loin sur votre chemin-là. On va pouvoir se renseigner sans s'inscrire. Je pense notamment à ceux qui étaient dans les fêtes des associations ce week-end et qui regardent de loin les cours de danse de salon en hésitant. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que le regard de l'autre, je vais le supporter? Donc, c'était assez émouvant. Moi, chaque année, j'aime beaucoup regarder ça parce que j'ai fait beaucoup de salsa pendant des années. Et à chaque fois que je donnais le premier cours, il y a des gens qui n'osaient pas s'approcher, qui n'osaient pas se toucher, qui n'osaient pas admettre que c'était difficile de coordonner le haut, le bas, le pied droit, le pied gauche. Je ne sais pas si vous avez déjà dansé la salsa, mais c'est vrai qu'au début, c'est vraiment un nouveau continent. Et puis au bout de quelques mois, ils se connaissent et ils vont ensemble, ils se voient en dehors, ils boivent des coups, ils sont reliés par cette nouvelle passion, par cette nouvelle activité, par cette nouvelle énergie. Et donc, faites-vous confiance. S'il y a vraiment un domaine qui vous donne envie, là, pour cet automne, faites ce premier pas. Allez rencontrer peut-être une association de quartier, une école de sport, quelque chose qui vraiment vous motive pour ouvrir à vos flammes agréables, pour ouvrir un nouveau cercle d'amis, peut-être de futurs amis. Peut-être que vous ne les connaissez pas encore, mais ils vont peut-être devenir des gens qui vont compter dans votre vie. Sachant que tout ce qu'on va vivre à l'extérieur de la famille et du couple peut aussi enrichir le lien quand on raconte, quand on explique ce qu'on a vécu dans notre journée, de dire aux gens qu'on a une multitude de stratégies sur notre éventail de stratégies et qu'en cherchant d'autres moyens de nourrir nos besoins, on peut tomber sur des nouvelles connaissances, des nouveaux cercles et vraiment de la joie en plus. Donc voilà les 10 astuces que je voulais vous proposer aujourd'hui pour alléger votre quotidien, pour remettre en route cet automne. Donc j'espère que ces astuces vont vous aider. Je peux évidemment vous proposer un accompagnement si vous en avez envie sur votre parentalité. Je peux être une des références qui pourrait vous amener à votre prochain pas, notamment vers de la légèreté, notamment vers plus de compréhension des émotions de l'enfant et de leur comportement. Peut-être aussi de la communication à rétablir à la fois dans le couple ou avec la belle-famille ou avec les enfants, les ados, parce que c'est une communication qui évolue au fur et à mesure que l'enfant va grandir. On va pouvoir aussi créer sur mesure la parentalité qui vous va, vous. Et puis, faire la paix à la fois avec soi, avec nos colères, avec nos tristesses, avec ce qu'on n'a pas voulu regarder en face. Je vous parle souvent du bocal à deuil et puis aussi de la reformulation positive. Donc, ces outils que vous pouvez retrouver à la fois dans les publications sur Instagram et à la fois dans les épisodes de podcast, suivant l'accompagnement que vous voulez vous offrir, vous allez pouvoir les approfondir. Vous pouvez aussi écouter le témoignage de Mathèle qui parle de son accompagnement individuel dans l'épisode 52 pour voir d'où elle est partie et où elle est arrivée par rapport aux séances qu'on a fait en individuel ensemble. Pour voir si c'est quelque chose qui vous intéresse, je donne une masterclass où je vais vous présenter les 5 étapes pour retrouver la sérénité en famille. Je vais vous parler de l'élément essentiel pour y arriver sur la longue durée, vraiment sur le long terme. Comment faire pour maintenir une parentalité épanouie, bienveillante, positive, tous les mots dont on rêverait de savoir comment faire, mais on ne sait pas comment faire. Je revois des mamans dans le parc qui me disaient « Non, mais j'ai tout lu, mais après, quand je suis chez moi, j'y arrive pas. » Et c'est quelque chose que j'entends tellement souvent quand j'accompagne des familles. Bien sûr, on a pu lire tellement, tellement de théories, mais comment l'appliquer à notre cas à nous ? Donc, c'est ce que je vous propose au travers des 5 offres que j'ai maintenant au catalogue des Petits Plus Zen. Le suivi individuel, donc qui est plutôt sur 6 mois. Et aussi le cercle parentalité où on parle en collectif, c'est vraiment à l'audio, de l'écoute, du dialogue. Il y a aussi le Allo Séverine qui est sur WhatsApp. Vous me posez une question par jour et je vous réponds avec un audio de 5 à 10 minutes sur ce thème-là, sur cet obstacle-là ou sur ce désir-là. Et puis, il y a aussi le parcours Émotizen qui va reprendre très prochainement. Je vous invite d'ailleurs à regarder les infos sur ce parcours parce que le tarif va augmenter. Donc si vous êtes intéressé, profitez-en tant que le tarif est encore bas. Et le dernier, c'est le scan tout simple des besoins et des émotions. C'est pour faire connaissance aussi. C'est une séance pour découvrir les 6 outils en face à face. Donc le scan des besoins et des émotions, c'est l'offre d'appel. C'est l'offre pour me découvrir si vous n'avez jamais regardé un peu de plus près ce que je propose. Donc voilà toutes les offres qui sont en ligne. Les 6 outils, vous les entendez très régulièrement, donc je ne vais pas les reciter là. Mais je vous invite à voir quel est votre projet, vous, dans votre famille. Est-ce que c'est vraiment de retrouver du temps pour vous? Est-ce que c'est d'harmoniser la relation, de mieux communiquer ou de comprendre les réactions émotionnelles de vos enfants, de voir l'impact que leurs émotions à eux provoque chez vous. Ça peut être aussi une indication hein, de voir à quel point ça nous fait réagir, de les voir eux se mettre en colère et d'être très tristes. Comment on réagit quand ils nous envoient leurs propres émotions et que nous, dans notre cheminée, on réagit directement avec ce déclencheur-là. On va en parler la semaine prochaine hein, sur cette contamination émotionnelle que j'ai pu développer à travers tous les outils que j'avais construits les 5 dernières années et que j'ai vraiment à cœur de vous transmettre parce que c'est le sujet que vous me demandez le plus souvent. Et voilà, je vous souhaite de vraiment apaiser votre rentrée, votre mois de septembre. Si vous avez envie d'autres conseils, vous pouvez me rejoindre sur les réseaux, sur Instagram et sur Facebook notamment, où je republie des carousels et puis des épisodes en visuel, un petit peu plus aménagés avec du texte. Et puis, vous allez voir bientôt les témoignages des mamans que j'ai accompagnées dans Emotizen qui m'ont fait leur retour au bout des 6 mois d'accompagnement. Donc, je leur fais un gros bisou aussi si elles écoutent parce qu'elles ont avancé, mais à une vitesse incroyable. Elles ont eu des prises de conscience et des révélations qui m'ont fait chaud au cœur, que ce soit avec leurs enfants, que ce soit avec leurs partenaires de vie, que ce soit avec leur famille aussi. Dans la génération, il y a eu des choses qui ont été dites, il y a eu des choses qui ont été posées comme limites. Et je suis impressionnée de toutes les choses et les résultats qu'elles ont pu obtenir en seulement 6 mois. Donc, vous aurez bientôt leur témoignage. Ce programme, hein, Emotizen, il est à la fois en ligne et en live. Vous allez avoir une plateforme d'accès pour vraiment regarder les vidéos et faire les exercices à la maison, à votre rythme, quand ça vous arrange. Donc, j'ai une des mamans, elle le fait à toute heure du jour et de la nuit. Des fois, elle prend un quart d'heure pour revisionner une vidéo ou elle se met l'audio quand elle va au travail. Donc c'est très maniable, c'est comme ça que j'ai choisi de le faire parce que vous avez été beaucoup à me dire que dans la vie de parent, pour suivre une formation en live et en direct, c'est très difficile quand nos enfants n'ont pas des horaires de coucher réguliers ou quand on a une vie un petit peu désarticulée en fonction de la semaine et que le partenaire de vie n'est pas toujours en relais pour s'occuper des enfants. Donc prenez vraiment le côté individuel des Emotizen comme un plus et puis on a des lives de questions-réponses pour aborder vos situations et vos thèmes de vie. Et puis pour traduire aussi ce qui est écrit dans la vidéo, dans le module de formation, pour qu'il puisse s'adapter encore mieux à votre vie, puisque le but c'est que vous ayez vraiment une vie sur mesure qui vous convient à vous, dans votre parentalité, dans votre identité de mère, de père, et que vous en fassiez le meilleur usage au maximum. Vous allez retrouver tous les liens vers les offres en cours, donc la masterclass, il y a aussi le groupe Clubhouse, il y a aussi la Zen Letter. Je vous mettrai le Linktree en commentaire de cet épisode. Je vous souhaite une très bonne semaine. Et vous le savez maintenant, on va parler de contamination émotionnelle la semaine prochaine. À bientôt. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. Tu peux retrouver les thèmes et les épisodes précédents aussi sur lppzen.com/lepodcast. Pour soutenir mon travail, je t'invite à noter, commenter et partager le podcast, notamment sur ton application préférée, comme Apple Podcast par exemple. Ton soutien est important pour moi, pour permettre à d'autres parents de retrouver la sérénité en famille. On se retrouve pour un prochain épisode très bientôt, et en attendant, prends bien soin de ta cheminée des émotions et de ton arc-en-ciel des besoins. À très vite!